Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. 21e lettre. Sur le Nil, près d'Antinoé, le 11 septembre 1829. Le lieu et la date de cette lettre diront clairement que mon voyage de recherche est terminé et que je retourne au plus vite vers Alexandrie pour regagner l'Europe et y trouver à la fois contentement de cœur et repos de corps, dont, au reste, quant au dernier point, je n'éprouve pas un grand besoin. Depuis Dendera, que j'ai quitté le 7 au matin, j'ai en effet vécu en chanoine, couché toute la journée dans la jolie cange de notre ami Mohamed Bey Akhmim, qui a bien voulu nous la louer. J'ai mené une vie tout à fait contemplative, et mon occupation la plus sérieuse a été de regarder, comme on le fait parfois à Paris, de quel côté venait le vent et si nos rameurs faisaient leur devoir en conscience. Le vent du nord nous a longtemps contrariés. Malgré le courant du fleuve, enflé outre mesure et au-dessus du maximum de sa crue, l'inondation de cette année est magnifique pour ceux qui, comme nous, voyagent en amateurs et n'ont dans ces campagnes d'autre intérêt que celui du coup d'œil. Il n'en est pas de même des pauvres et malheureux fellahs ou cultivateurs. L'inondation est trop forte. Elle a déjà ruiné plusieurs récoltes et le paysan sera obligé, pour ne pas mourir de faim, de manger le blé que le pacha lui avait laissé pour l'ensemencement prochain. Nous avons vu des villages entiers délayés par le fleuve, auxquels ne sauraient résister de mesquines cahutes bâties de limon séché au soleil. Les eaux, en beaucoup d'endroits, s'étendent d'une montagne à l'autre, et là où les terres plus élevées ne sont point submergées, nous voyons les misérables fellahs, femmes, hommes et enfants, portant en toute hâte de pleines couffes de terre, dans le dessein d'opposer à un fleuve immense des digues de 3 à 4 pouces de hauteur, et de sauver ainsi leur maison et le peu de provisions qui leur reste. C'est un tableau désolant et qui navre le cœur. Ce n'est pas ici le pays des souscriptions, et le gouvernement ne demandera pas un sou de moins, malgré tant de désastres. C'est avec bien du regret, comme on se l'imagine sans doute, que j'ai dit adieu aux magnificences de Thèbes, que j'habitais depuis 6 mois. Notre dernier logement a été, à Karnak, le temple de Hof, Réa, à côté du grand temple du sud, au milieu des avenues de Sphinx et à la porte du grand palais des rois. À notre retour à Thèbes, au mois de mars passé, nous avions exploité le palais de Louxor et fait dessiner tous les bas-reliefs de quelque intérêt, en commençant par les immenses tableaux des deux massifs du pylône. Ce sont donc les seuls édifices de Karnak que nous avions encore à étudier. Ce travail a été exécuté avec ardeur, et mes portefeuilles renferment, sans exception, la série de tous les bas-reliefs historiques, un peu conservés, du palais de Karnak, aussi beau de style et d'exécution que ceux d'Ibsamboul, s'ils ne leur sont même réellement supérieurs. Tous concernent les campagnes de Menephtha Ier, ou Sirei, en Asie. J'ai fait prendre, de plus, une 50aine de dessins de bas-reliefs qui méritent aussi le titre d'historique, puisqu'ils représentent des pharaons qui complètent ou enrichissent plusieurs de mes recueils relatifs au 18e, 19e, 20e, 21e et 22e dynastie. Karnak est un amas de palais et de temples. Étonnante réunion d'édifices de toutes les époques de la monarchie égyptienne. Construction merveilleuse, devant lesquelles tout esprit de système sur les arts devra se modifier par l'influence de si grandes conceptions complètement réalisées. Parti de Thèbes le 4 septembre au soir, j'étais le 5 sous le portique de Dendera, dont l'architecture est aussi admirable que les bas-reliefs de décor sont mauvais et repoussants par l'empreinte de décadence qu'ils offrent dans toutes leurs parties. Les inscriptions hiéroglyphiques elles-mêmes sont de mauvais goût. Le scribe qui les a tracées a voulu faire le bel esprit, prodiguant les symboles et les formes figuratives. Il a visé aux lazzi et même aux calembours. Toutefois, la masse de l'édifice est belle, imposante, frappe même les voyageurs qui, comme nous, sont de vieux Thébains et ont l'œil encore rempli des belles conceptions architecturales de l'époque des pharaons. Le reste du voyage jusqu'aujourd'hui, 11 septembre, n'a rien offert de particulier. J'espère dans la nuit de demain arriver au Caire. Là, rien ne peut m'arrêter plus de 4 ou 5 jours. Nous partirons tout de suite pour Alexandrie. Et s'il s'y trouve un bon vaisseau prêt à nous recevoir, je m'embarque immédiatement pour gagner Toulon. C'est aussi sur le Nil entre Dendera et Haou, Diospolis Parva, que nous ont rejoint par hasard 2 malheureux courriers, expédiés de Thèbes au Caire depuis la fin de juin. Pendant tout ce temps-là, nous sommes restés sans nouvelles d'Europe, et c'est en attendant chaque jour leur arrivée que le temps s'est écoulé sans que nous puissions écrire en France. Du reste, comme nous, vous devez être accoutumés aux lacunes. Ces courriers m'ont apporté les lettres du 12 mai et du 12 juillet. Heureusement, je suis en chemin d'en avoir de plus fraîches. Nous venons d'apprendre l'arrivée du nouveau consul général de France, M. Mimo. On nous en dit toutes sortes de bien. Ce sera, pour nous, une nouvelle ressource. Adieu. Fin de la 21e lettre écrite d'Égypte par Jean-François Champollion. Vingt-deuxième lettre. Le Caire, le 15 septembre 1829. Nous voici de retour dans la capitale de l'Égypte, où je ne trouve ni lettres ni nouvelles d'Europe. Je me hâterai de descendre à Alexandrie. Je suis retenu au Caire par une visite que je dois faire à Ibrahim Pacha, dont je suis désireux de faire la connaissance. Je puis, dans une conversation, laisser dans sa tête le germe de quelques bonnes choses, et il est capable de les exécuter. Je n'ai pas oublié le musée égyptien du Louvre dans mes explorations. J'ai recueilli des monuments de tout volume, et les plus petits ne seront pas les moins intéressants. En objet de gros volume, j'ai choisi sur des milliers 3 ou 4 momies remarquables par des décorations particulières ou portant des inscriptions grecques. Ensuite, le plus beau bas-relief colorié du tombeau royal de Menephtha Ier, ou Sireï, à Biban el Molouk. C'est une pièce capitale qui vaut à elle seule une collection. Il m'a donné bien du souci et me fera certainement un procès avec les Anglais d'Alexandrie, qui prétendent être les propriétaires légitimes du tombeau d'Usireï, découvert par Belzoni aux frais de M. Salt. Malgré cette belle prétention, de deux choses l'une, ou mon bas-relief arrivera à Toulon, ou bien il ira au fond de la mer ou du Nil, plutôt que de tomber en des mains étrangères. Mon parti est pris là-dessus. J'ai acquis au Caire, de Mahmoud Bey, le Kihaïa, le plus beau des sarcophages présents, passés et futurs. Il est en basalte vert et couvert intérieurement et extérieurement de bas-reliefs, ou plutôt de camées, travaillées avec une perfection et une finesse inimaginables. C'est tout ce qu'on peut se figurer de plus parfait dans ce genre. C'est un bijou digne d'orner un boudoir ou un salon, tant la sculpture en est fine et précieuse. Le couvert porte, en demi-relief, une figure de femme d'une sculpture admirable. Cette seule pièce m'acquitterait envers la maison du roi, non sous le rapport de la reconnaissance, mais sous le rapport pécuniaire, car ce sarcophage, comparé à ceux qu'on a payés 20 et 30 000 francs, en vaut certainement 100 000. Le bas-relief et le sarcophage sont les deux plus beaux objets égyptiens qu'on ait envoyés en Europe jusqu'à ce jour. Cela devait de droit venir à Paris et me suivre comme trophée de mon expédition. J'espère qu'ils resteront au Louvre en mémoire de moi à toujours. Fin de la 22e lettre. 23e lettre. Alexandrie, le 30 septembre 1829. Depuis 10 jours, nous sommes à Alexandrie. Nous avons reçu de M. Mimo, le nouveau consul général de France, l'accueil le plus gracieux, et je ne saurais assez me louer des soins et des attentions dont il m'honore depuis que je suis chez lui. J'en suis pénétré de la plus vive reconnaissance. Ma santé et celle de mes compagnons est des meilleures. Il ne manque à notre bonheur que de voir naître et s'élever de l'horizon la voile du vaisseau que M. le ministre de la Marine a bien voulu envoyer pour nous ramener en France. Mais depuis 6 semaines, la mer est déserte, pas même un vaisseau marchand, et notre patience s'use par seconde. Je n'ai quitté le Caire qu'après avoir fait une longue visite à Ibrahim Pacha, qui nous a reçus au mieux. Je l'ai beaucoup entretenu d'un voyage aux sources du Nil, et j'ai affermi en lui l'idée qu'il avait déjà d'attacher son nom à cette belle conquête géographique, soit en favorisant largement les voyageurs qui la tenteraient, soit en préparant lui-même une petite expédition de voyageurs qu'il ferait soutenir par quelques hommes d'armes. C'est là une semence jetée en bonne terre pour l'avenir, et le pacha comprend tout l'intérêt de cette entreprise et de son succès. J'ai aussi présenté mes respects au vice-roi Mohamed Ali et lui ai dit toute notre gratitude pour la protection officieuse qu'il nous a accordée. Le vice-roi est toujours bon et aimable pour les Français. C'est dire qu'il l'a été infiniment pour nous. Je profite de l'attente à laquelle je suis condamné pour mettre en ordre mes papiers et dessins. Je dis que c'est immense et j'espère que vous en jugerez de même. Mes jeunes gens passent leur loisir forcé à peindre des décorations pour un théâtre que des amateurs français vont ouvrir incessamment. Un théâtre français à Alexandrie, d'Égypte, dit bien haut que la civilisation marche. Nous serons donc forcés de nous divertir en attendant l'embarquement. 15 octobre 1829. Nous sommes aujourd'hui tout aussi avancés qu'au 15 septembre, c'est-à-dire toujours cloués à Alexandrie. Ce qui augmente mes regrets d'avoir quitté si tôt Thèbes et la Haute-Égypte, et cela pour venir le plus tôt possible, perdre notre temps sur les tristes rives de la Méditerranée. Nous savons seulement que la corvette, l'Astrolabe, a fait annoncer qu'elle avait commission de nous ramener en France. Elle est commandée par M. de Verninac, un de mes compatriotes quercinois. Cela n'empêchera pas que nous soyons encore à Alexandrie au 15 novembre prochain, l'Astrolabe devant préalablement conduire en Syrie M. Malivoire, consul de France à Alep. Les Toscans ont perdu patience et se sont embarqués sur un navire marchand. Le voisinage de l'Astrolabe m'a détourné de la même résolution. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas me séparer de mon bagage archéologique. Me voilà toujours avec la terre de France en perspective. Je la toucherai enfin, mais jamais assez tôt pour mon cœur. Adieu. Vingt-quatrième lettre. Alexandrie, le 10 novembre 1829. Le mauvais temps ayant contrarié les projets de l'Astrolabe a aussi ajourné les miens. Je ne pense pas m'embarquer avant le 20 de ce mois, mais je trouverai dans le commandant Verninac un fort aimable homme, très instruit et de la plus agréable société. C'est quelque chose partout, bien plus encore sur mer. Le beau sarcophage a été mis à bord hier et fort heureusement, nous continuons l'embarquement de nos effets. Mais je ne suis pas sans quelques craintes en pensant d'avance aux douanes de Toulon. Il faut qu'un ordre ministériel nous y précède pour la libre admission. Deux points. Premièrement, des caisses contenant les monuments que je destine au musée. Deuxièmement, pour les divers objets qui font aujourd'hui partie de notre garde-robe orientale ou de simples curiosités, tels que manteaux de laine dits burnous, chaussures pour hommes et pour femmes, voiles de mousseline brodées en or, armes, ustensiles domestiques, harnais, et autres produits des manufactures d'Égypte et de Nubie que nous avons recueillis à nos dépens. Je ne pense pas qu'on nous refuse cette faveur, du reste bien gratuite pour nous. Les décorations du Théâtre français d'Alexandrie sont terminées et déjà éprouvées. L'ouverture du théâtre a eu lieu le jour de la fête du roi, à la grande satisfaction des nombreux spectateurs que cette fête nouvelle avait réunis. 28 novembre 1829. Enfin, il m'est permis de dire adieu à ma terre sainte, à ce pays de merveilles historiques. Je quitterai l'Égypte comblé des faveurs de ses anciens et de ses modernes habitants vers le 2 ou le 3 décembre. Mon fidèle aide de camp, Salvador Cherubini, ne me quittera pas. Messieurs L'Hôte, Lehoux et Bertin resteront ici après nous pour avancer un grand travail qu'ils ont commencé, le panorama du Caire, pour lequel ils ont fait sur les lieux toutes les études nécessaires. Ils veulent le terminer ici, et ils ont 100 fois raison, car ce sera une magnifique chose. Pour moi, je pars bien résolu contre les bourrasques et coups de vent qui ne nous manqueront certainement pas dans ce temps-ci. Mais la France est à ce prix. Je l'accepte. Cette lettre voguera par les soins obligeants d'un fort aimable et excellent homme, M. Houdère, aide de camp de M. le général Guilleminot, qui monte le brick L'Éclipse et dont l'arrivée précédera la mienne d'une dizaine de jours. Son brick marchant bien mieux que notre astrolabe, corvette à l'épreuve de la bombe et des fureurs de l'océan, qu'elle a bravé plusieurs fois dans ses voyages autour du monde. Je ne serai donc à Toulon que du 20 au 25 décembre, et sur pays chrétien que vers le milieu de janvier, à cause de la quarantaine de 3 à 4 semaines que je ferai à Toulon, si je ne la fais pas à Malte dans l'intention de gagner quelques jours. Dans tous ces calculs, je crois fermement que la fin de mon drame sera aussi heureuse que les 4 premiers actes. L'idée, France, en constitue l'unité requise par la vénérable Antiquité. Adieu. Vingt-cinquième lettre. Toulon, le 25 décembre 1829. Entre guillemets, « Soyez sans inquiétude, tout ira bien. » Fin de la citation. C'est en ces termes que je dis adieu à mes amis au moment de mon départ de Paris. J'ai tenu parole et me voici en rade de Toulon, subissant avec résignation le triste devoir de la quarantaine. Ma campagne est donc finie, et tous mes vœux et les vôtres sont remplis. C'est le 23 décembre, dans la rade d'hier, que l'encre de l'astrolabe mordit enfin sur la terre de France. C'est le jour anniversaire de ma naissance. Au 1er janvier, vous aurez ma lettre pour vos étrennes. Il ne manque donc à ma satisfaction que d'avoir en main vos lettres, qui m'attendent sans doute ici. J'espère pour tout cela dans les bontés habituelles de Monsieur le Préfet maritime. Je ferai ma quarantaine à bord de l'Astrolabe, toutefois en prenant une chambre au lazaret, dans le but de me chauffer et de faire un peu d'exercice. J'y reverrai mon journal de voyage, et j'y ajouterai ce qui y manque sur mon dernier séjour au Caire et à Alexandrie. La reconnaissance me fait un devoir de consigner dans ce journal tous les témoignages d'intérêt que j'ai reçus d'Ibrahim Pacha et les marques non interrompues de la plus active protection de Son Altesse Mohamed Ali qui, le jour de la fête du roi, a ajouté à toutes ses bontés le présent d'un magnifique sabre. C'est une tête qui travaille avec activité sur le passé et sur l'avenir. Son Altesse m'a demandé un abrégé de l'histoire de l'Égypte et j'ai rédigé un petit mémoire, selon ses vues, qui paraît l'avoir vivement intéressé. Je lui ai remis aussi une note détaillée qui a pour objet la conservation des monuments principaux de l'Égypte et de la Nubie. J'espère que ces deux mémoires porteront leurs fruits. Je ne saurais dire assez haut tout ce dont je suis redevable aux soins et à l'affection de M. Mimot, notre consul général. C'est un homme parfait qui m'est allé au cœur et n'en sortira jamais. J'ai recommandé de nouveau à ses bontés Messieurs L'Hôte, Lehoux et Bertin, qui restent après moi à Alexandrie pour terminer leur panorama du Caire et faire les portraits du vice-roi et d'Ibrahim, son fils, qui l'ont désiré. Le magnifique sarcophage, le grand bas-relief du tombeau de Menephta, toutes mes caisses contenant les stèles, momies et autres objets destinés au musée, sont chargés sur l'astrolabe. J'espère que la douane épargnera ses propriétés nationales et que je ne serai pas obligé de déballer 20 ou 30 caisses qui nous ont déjà coûté tant de peine. Ce qu'il faudrait obtenir encore, c'est d'éviter le transbordement de ces monuments et que M. de Verninac soit chargé de conduire le chargement de l'Astrolabe dans le port du Havre aussitôt que la saison le permettra. Vers les premiers jours de mars, je pense, pour être en avril au Havre, d'où un chaland emporterait le tout par la Seine devant le Louvre. Par ce moyen fort simple, et pour lequel il suffira d'un ordre de M. le ministre de la Marine, on ne compromettrait pas, par deux ou trois transbordements, la conservation de ces richesses monumentales qui serviront à compléter les salles basses du musée. Après ma sortie de quarantaine, je resterai 3 jours à Toulon, j'en passerai 4 à Marseille, d'où je me rendrai à Aix pour étudier les papyrus de M. Salier. Ce sera une petite séance égyptienne, et j'espère en reprendre l'habitude journalière à Paris. C'est un sort, et je m'y résigne sans peine. Adieu. Fin de la 25e lettre écrite d'Égypte par Jean-François Champollion, ainsi que du 24e fichier.